Me revient d'ouvrir donc ce deuxième colloque de notre Institut Saint-Grégoire-le-Grand. Deuxième colloque après ce magnifique colloque que nous avons eu l'année dernière, qui nous a parlé de ce grand pape Pie XII. Et cette année, l'actualité nous y a poussé. Nous avons pris comme thème les 2000 ans de christianisme, avec des questions actuelles, comme nous le verrons tout à l'heure. L'an 2000, voilà une date qui certainement semblait, il y a quelques mois, un peu mythique à beaucoup de nos contemporains, un peu attendue, avec inquiétude par certains. Certains l'attendaient avec appréhension, certains pour une bonne opération commerciale, d'autres pour passer une bonne nuit de réjouissance effrénée, ou que sais-je, d'autres eh bien, qui peuvent avoir tel ou tel motif. Et pourtant, quoi de plus naturel, peut-on dire, que cette succession du temps, instant après instant, année après année. Et pourtant, qui connaissait et qui connaît encore la raison de cet an 2000 que nous sommes en train de voir se dérouler, que nous avons fêté, eh bien, cette année et que nous fêtons cette année. Il y a 2000 ans, une étoile s'est levée. Une étoile venue d'Orient, une étoile qui annonçait la naissance du désiré des nations, de toutes les nations, et un sauveur nous est né. Et ce sauveur est venu, et qui peut le nier? Qui peut le nier, qu'on soit, j'allais dire, croyant ou qu'on ne soit pas croyant? Il est venu, c'est l'histoire qui nous le rapporte ainsi, comme celui qui était attendu de toutes les nations. Et pendant sa vie, eh bien, le Christ a fondé une œuvre qui répondait à cette attente et une œuvre qui est poursuivie encore aujourd'hui par l'Église. Cette Église qui a été promise à Saint-Pierre avant la Passion, cette Église qui a été fondée sur la croix, cette Église qui a été manifestée le jour de la Pentecôte, cette œuvre de l'Église qui répand et communique Jésus-Christ aux âmes, selon cette magnifique définition de l'Église donnée par Bossuet. Et ne peut-on pas dire que cette Église représente un miracle permanent, que cette Église est un miracle? Et je crois qu'on peut le dire. Et le propos de cette ouverture sera de montrer quelque peu justement ce miracle de l'Église. Le miracle de l'Église, c'est tout d'abord son essor extraordinaire, après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, et cela malgré les oppositions, les persécutions sans nombre des premiers siècles. L'Église, on peut dire, s'est frayée un chemin à travers les nations, et elle est devenue cette première force spirituelle du monde. Miracle, car qui pouvait considérer une religion fondée par une personne morte sur une croix? Scandale pour les juifs et folie pour les païens, comme le rappelle saint Paul. Miracle, car qui étaient ces hommes choisis par le divin maître pour porter son évangile aux quatre coins du monde? Qui étaient ces hommes? Des pauvres, des petits aux yeux du monde. Mais comme l'enseignera saint Paul lui-même, Dieu aime se servir de ce qui est petit, de ce qui est faible aux yeux des hommes, et cela pour confondre ce qui est puissant aux yeux du monde. Et il veut montrer par cela, eh bien, que c'est Dieu qui agit, c'est lui qui agit à travers ces hommes. Et ainsi, après la mort du dernier des apôtres, saint Jean l'évangéliste, l'Église, on peut le dire, était présente, ou en tout cas connue, dans le monde connu de l'époque. Et en ce temps-là, vous le savez, il n'y avait ni Concorde, ni TGV, ni téléphone, ni fax, ni Internet, et tous ces autres moyens de communication que nous connaissons aujourd'hui. Ces apôtres, ces 12 colonnes de l'Église, qui toutes d'ailleurs subirent le martyre, même si tous ne moururent pas martyrs, eh bien ces 12 colonnes de l'Église furent ces ambassadeurs, ces vrais ambassadeurs de Dieu parmi nous. Et ce miracle, je vous le demande, est-il explicable humainement? Je ne crois pas. Bien sûr, il y avait des conditions favorables. Cette paix romaine qui était là, c'est vrai. Mais quand même, 12 personnes, avec quelques disciples, c'est entendu. Mais qu'est-ce que 12 personnes pour évangéliser le monde entier? Le miracle de l'Église, C'est également de voir, 2000 ans après sa fondation, sa pérennité. L'Église dure. Hein. Et on peut poser aujourd'hui cette question, quelle est l'œuvre humaine qui, dans l'histoire du monde, a pu durer si longtemps? Aucune. Toutes les civilisations, romaines, égyptiennes, etc., elles ont vécu. Seule, peut-on dire, l'Église demeure. 2000 ans? Non, il faudrait remonter bien plus loin que ces 2000 ans. Car l'Église qui est née, effectivement, sur la croix, promulguée le jour de la Pentecôte, a une histoire qui nous est rapportée dans la Sainte Écriture, qui est toute une figure de l'Église, une figure de notre Seigneur Jésus-Christ, cet Ancien Testament qui annonce notre Seigneur Jésus-Christ. Et son fondateur ne l'a pas instituée pour être provisoire, mais pour être définitive. Voici que je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. C'est dire la perpétuelle jeunesse de l'Église qui transcende toutes les époques. La devise des Chartreux s'exprime ainsi, « Stat crux dum revolvitur orbis ». La croix demeure pendant que la terre tourne, même si même quelquefois la terre fait ses révolutions. Oui, la devise des Chartreux le dit, l'histoire de l'Église le proclame. Et de fait, qui peut le nier? L'Église catholique dure, et elle dure malgré les oppositions, encore une fois, qu'elle connaît. Opposition des persécutions, des martyrs. Monsieur Essertel nous en donnera un aperçu tout à l'heure dans sa communication. Ce furent ensuite les divisions internes des fauteurs de troubles, les hérétiques, les schismatiques, ceux qui veulent, eh bien, finalement, dénier cette vérité de l'Église, enseignée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui veulent se séparer de la tête de l'Église. Ce furent encore les querelles des rapports entre l'Église et les États, ces querelles qui empoisonnèrent de nombreux siècles de l'histoire. Ce fut enfin, et cette liste bien sûr n'est pas exhaustive, et c'est encore une persécution asphyxiante de l'homme sans Dieu, laïque et obligatoire, qui prétend se passer de son Créateur. Cet essor est un miracle par lui-même. Cette durée est un miracle par lui-même. Miracle certes compréhensible, explicable, car cette œuvre de 2000 ans n'est pas une œuvre humaine, mais elle est une œuvre divine, une œuvre surnaturelle, qui certes se réalise par des hommes et avec des hommes. Et ces hommes, ce sont des pauvres instruments, mais ils sont dans la main de Dieu. Ils doivent être dans la main de Dieu. Et notre Seigneur le disait lui-même, pour lui, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et bien plus, tous les ministres de l'Église, qu'ils soient prêtres, évêques ou vicaires du Christ, tous doivent redire, la doctrine de l'Église n'est pas de nous, mais de celui qui nous a choisis pour être ses ministres, pour être ses ambassadeurs. Mais peut-être ici même, d'autres l'ont fait en tout cas, vous me direz qu'au cours des âges, des fautes ont été commises dans l'Église. Certains journalistes, en mal de recherche, de sensationnel, se gaussent de le faire remarquer. Et il est de bon temps, aujourd'hui, dans le religieusement correct, ecclésial, de faire repentance des fautes. Et je pose la question, est-ce de l'Église entre... Je pose la question. Des fautes du passé en tout cas. Une pratique d'autant plus facile que les accusés et les pécheurs de l'époque, de toute espèce qu'ils soient, ne sont plus à la barre du jugement pour se défendre. Et le sens de l'Église, le sens de l'histoire, pardon, c'est-à-dire celui de l'histoire officielle, ne s'attache pas tant à recourir aux faits bien certains, ces faits bien certains que l'on connaît, qu'à ceux que l'on ignore, et ainsi... Eh bien, il se prête, ces faits que l'on ne connaît pas, à toutes les interprétations possibles et inimaginables. Alors, d'aucuns se plaisent à mettre en valeur cet aspect peu ragoûtant, peut-être, du péché des hommes, pour faire oublier le reste. Et je crois que c'est oublié bien vite qu'à l'exemple de son chef, notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe divin incarné, bien que, bien sûr, la comparaison ne vaille pas tout à fait, Oui, à l'exemple de son chef, l'Église revêt ces deux aspects. L'un, aspect divin, essentiellement surnaturel, indéfectible, infaillible, et l'autre humain, et donc faillible. L'un divin, parce que c'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, et l'autre humain, eh bien, ce sont les moyens, pauvres moyens, dont le bon Dieu veut se servir. Mais ce côté humain faillible ne nous fait pas peur. Il ne nous fait pas peur parce que cette Église sainte, sans tache, ni ride, immaculée, a des enfants, oui, malheureusement, ces enfants qui ne vivent pas selon les règles de l'Église et qui, en ce sens-là, trahissent l'Église. Et l'Église est un mystère, elle reste un mystère. Elle reproduit dans ses membres la vie, la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur reste saint. Pour cause, lui qui est le trois fois saint, et qui a pris sur lui tous nos péchés. Bernanos, dans la grande peur, décrit cet aspect misérable de la partie visible de l'Église, de ce troupeau. Troupeau, je vous le cite, cette belle citation, troupeau rassemblé par l'habitude ou la crainte, pour qui le divin n'est plus qu'un alibi à sa paresse, à son horreur de toute virilité. Mais qui le recueillerait, sinon l'Église, ce troupeau? Ainsi voit-on se pousser autour d'elle, repoussant les saints sur le parvis, une foule de malheureux qui n'y viennent chercher d'âge en âge que le repos des horreurs et des rangs, des honneurs et des rangs, incapables de trouver par ailleurs le pain de leur propre convoitise. Quiconque s'étonnerait de les voir là ressemblerait aux pharisiens sourcilleux, toison d'un regard de dégoût, le rabbi Jésus, avec son escorte de béquillards, d'aveugles, de mendiants et probablement aussi de simulateurs. Car l'Église n'est pas rien moins que le panthéon des grands hommes, mais sous la rage de la pluie et du vent éternel, le refuge où le plus misérable homme, la plus misérable espèce, vient recevoir de Dieu et de ses saints, jour après jour, de quoi subsister, vaille que vaille, jusqu'à l'éternel pardon. Et ce premier aspect de l'Église ressemble finalement à celui que décrit le prophète Isaïe à propos de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne l'avons pas reconnu, sans beauté, sans éclat, méprisé, le dernier des hommes, un être de douleur, rompu à la souffrance, défiguré, semblable à un lépreux. Mais à côté de cet aspect, dont il ne faut pas nous étonner, ou alors nous sommes des pharisiens, et que décrit l'expérience et le passé, il y a celui que nous décrit la doctrine, que nous rappelle également l'histoire, le vrai côté de l'Église, le beau, le divin. Affirmons donc cette sainteté de l'Église, cette épouse immaculée de notre Seigneur, c'est une note de l'Église, une marque de la véritable Église d'être sainte. Parce que son fondateur est saint, parce que sa doctrine, ses sacrements, sa liturgie est sainte, et parce qu'elle a toujours formé et forme encore des saints. Et cette sainteté qu'elle offre n'est pas le privilège d'une élite, d'une classe ou d'une époque, dira le cardinal Mizzenti. Dieu ignore les conditions de personne. Il est des saints innocents, il y a aussi des saints pécheurs repentants. Et sans complexe, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus cohabite, côtoie, sans peur et sans reproche, pourrait-on dire, Sainte Marie-Madeleine, la repentante, la pécheresse repentante. Le Père Emmanuel, dans son livre La Sainte Église, a des formules définitives pour nous parler de cette sainteté de notre Mère, l'Église. L'Église de Jésus-Christ est essentiellement sainte, car Jésus-Christ, comme chef, pénètre d'un esprit de sainteté. Et cet esprit de sainteté, c'est l'Esprit Saint. Cet esprit agit incessamment pour la purifier de tout péché, comme étant lui-même la rémission des péchés, et pour lui faire accomplir toute justice, comme étant cette charité qui accomplit toute la loi. La sainteté que répand l'Esprit Saint dans l'Église avec la charité est très intérieure, toutefois elle a son côté extérieur. Et c'est par là qu'elle est un des caractères de l'Église. La sainteté de l'Église se manifeste par les mystères de son culte, qui sont les mystères de pureté. par son enseignement qui, comme le dit le psaume, est chaste et immaculé, par ses productions qui sont les saints et des œuvres saintes. Il y a des pécheurs en trop grand nombre qui la déshonorent, mais il ne lui enlève rien de sa sainteté substantielle. Ils sont en elle comme l'ombre qui fait éclater la lumière. Ils sont en opposition avec son enseignement qui condamne tous les vices. Avec les justes qu'elle porte et dont la vie les condamne plus encore, ils font tache sur elle, ce qui montre son immaculée blancheur. Un musulman luxurieux, cruel, ne fait pas tache à l'islamisme qui a autorisé la luxure et la cruauté. Un protestant atteint de ses vices n'a pas à rougir en lisant Luther. L'Église, elle, ne se fait pas une autorité en entrant en composition avec les vices et les turpitudes des hommes. Elle fait voir, en les combattant sans trêve ni quartier, que son autorité vient de Dieu. C'est en quoi elle est sainte. Aucune société humaine ne lui dispute ce caractère. Oui, le miracle de l'Église, c'est sa sainteté. Et puis cette sainteté qui engendre dans les âmes la grâce de Dieu, l'Église est mère. Cette sainteté est catholique, cette Église est catholique. Autre marque de l'Église, catholique c'est-à-dire universelle. Religion de l'incarnation, la religion catholique a été fondée avec un enseignement, avec des commandements, des rites, ceux transmis par le Christ, qui connaît bien cette nature, qu'il assume par son incarnation, car lui, eh bien, l'a créé cette nature, et il l'assume, il la prend sur lui, sauf le péché. Relisez, méditez souvent ce magnifique offertoire de la messe, tridentine, qu'on ne retrouve pas dans la nouvelle messe, et pour cause. Au Dieu qui avait créé la nature humaine d'une manière admirable, et qui l'avait restaurée d'une manière encore plus admirable. Oui, tout ce que fait notre Seigneur, tout ce que fait l'Église est encore plus admirable que la nature déjà admirable créée par Dieu. Et notre Seigneur, pour cette nature humaine qu'il assumait, dit définitivement « Je suis la voie, la vérité et la vie, suivez-moi ». La vérité, la doctrine catholique est certes remplie de mystères, trois principaux mystères, l'incarnation, la rédemption, la Sainte Trinité. Mais est-ce étonnant que l'homme, par sa pauvre intelligence, ne puisse pas tout saisir de cette connaissance de Dieu? Et cela ne vient pas de ce que Dieu est impénétrable. Oui, il est impénétrable. Mais cela vient de que cette impénétrabilité de Dieu vient de nous, car notre intelligence est trop faible par rapport à l'éternité de Dieu, à l'infinité de Dieu. Par contre, les théologiens ont toujours expliqué que tous les mystères de notre foi ne sont pas contradictoires avec notre raison, avec même ce que nous connaissons de la science. Et M. Dominique Vien, tout à l'heure, dans sa communication sur la Bible au risque de l'histoire, nous donnera un aperçu de cette question. Vérité historique proclamée devant la science également par le linceul de Turin, par ses reliques de la Passion du Christ. Et certains auteurs, peut-être avec audace, mais certainement pas sans raison, nomment ce linceul de la Passion du Christ comme le cinquième évangile, entre guillemets bien sûr, un cinquième évangile dont la révélation nous est parvenue tout spécialement en ce début de ce siècle, du XXe siècle, siècle de rationalisme, siècle de mise en doute dans la théologie. Et voilà que, eh bien, le linceul vient nous montrer la véracité des évangiles, la véracité de cette révélation de Dieu. Communication donc de Mademoiselle de Dompsur sur ce sujet, que fera donc M. Essertel. La vérité, mais aussi la voix, ces commandements divins reçus par Moïse sur le mont Sinaï, que notre Seigneur vient nous révéler également en nous en donnant la véritable signification. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir ce qui a été écrit de moi. Et notre Seigneur viendra nous dire, oui, la loi de crainte, c'était pour avant, c'était pour l'Ancien Testament, et maintenant, c'est la loi de l'Évangile, aime avant toute chose. Cette loi d'amour proclamée sur le mont des Béatitudes par notre Seigneur Jésus-Christ, et qui semble nous dire, si tu veux être heureux sur cette terre, si tu veux être en règle avec ton Créateur, avec toi-même, avec ton prochain, Alors respecte ce mode d'emploi que Dieu t'a donné en te créant. Cette voie du bonheur n'a pas été abolie, encore une fois, par notre Seigneur, mais elle a été parfaite par notre Seigneur. La voie, mais aussi la vie. Quoi de plus conforme à la nature humaine que cette liturgie, que ces sacrements institués par notre Seigneur Jésus-Christ? Quoi de plus naturel, d'universel également, que cette liturgie multiséculaire de l'Église, lorsque le pécheur ploie le front sur les fronts baptismaux, lorsqu'il reçoit l'eau du baptême, il sait, s'appuyant sur l'autorité de Dieu qui révèle, sur l'autorité de l'Église qui enseigne, il sait que par ce signe visible, efficace, la grâce lui est donnée. Il est devenu fils adoptif de Dieu. Saint Paul le dira, invisibilia per visibilia. Notre nature est ainsi faite que nous atteignons les choses invisibles de Dieu par les choses visibles de cette création. Et Dieu a voulu, dans son économie divine, dans ses sacrements, dans sa liturgie, faire ainsi. Et alors, eh bien, nous sommes loin, effectivement, de tous ceux qui ne respectent pas cet ordre surnaturel et naturel créé par Dieu. Dieu respecte cet ordre qu'il a fondé. Alors quoi de plus étonnant, mais ce n'est pas étonnant, que de voir, eh bien, finalement, ces peuplades les plus reculées, aux cultures si différentes des nôtres, de voir ces peuplades adopter le christianisme, adopter cette religion prêchée par les missionnaires au cours des âges, et dire qu'aujourd'hui, eh bien, on nous parle d'inculturation. N'est-ce pas dénier ce caractère transcendant, universel de la religion catholique? Il n'y a qu'à écouter le témoignage de missionnaires, encore maintenant, missionnaires d'Afrique, des Indes, ou que sais-je, qui tous constatent la soif de ces chrétiens, de ces peuplades reculées, qui, eh bien, demandent cette religion catholique, qui demandent d'assister, ne serait-ce que par, pour prendre un exemple, à ces offices grégoriens, et qui ne sont pas attirés par toutes ces artifices modernes qu'on voit dans la nouvelle liturgie, par l'inculturation, les danses, que sais-je. Ils ont ça autre part. Ils n'ont pas besoin, eh bien, de cela dans la religion catholique. L'inculturation, loin de les élever, finalement, les prend dans leur sens de leurs habitudes mauvaises. Et alors, l'Église catholique, parce qu'elle est mère, parce qu'elle va nous engendrer à la vie divine, est alors capable, oui, de conduire l'homme au véritable bonheur, vers cette sainteté à laquelle la Sainte Trinité nous appelle. Un bonheur, bien sûr, qui n'est pas terrestre. La Sainte Vierge le disait à Sainte Bernadette. Sainte Bernadette qui a entendu ces paroles de Notre-Dame. « Je ne te promets pas le bonheur sur cette terre, mais dans le ciel. » Alors, contrairement aux idéologies temporelles, démagogues, qui nient le péché originel, qu'elles soient fausses religions, sectes ou systèmes de pensée, l'Église catholique est réaliste et ne prétend pas refaire, réinstaurer un paradis terrestre sur cette terre. Depuis toujours, comme nous le démontrera tout à l'heure, celle chère Sainte Naïs, par la doctrine évangélique, l'Église a toujours su répondre aux défis lancés par les sectes du monde entier, et cela depuis la création, depuis en tout cas le péché originel. Et si elle semble aujourd'hui si faible, c'est peut-être parce que, bien, son langage n'est plus ce qu'il devrait être, authentique, celui de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est peut-être parce que ses ministres ont oublié d'être les véritables ambassadeurs de Dieu. Alors l'Église est mère. Et son miracle également, ce sera toutes ses réalisations. L'Église prétend, et son action le manifeste, pendant ces 2000 ans de christianisme, elle prétend sans irénisme, oui certes, sans irénisme, adoucir pour l'homme son pèlerinage sur cette terre, pour permettre aux hommes de vivre dans la sainteté. Et pour cela, eh bien, elle veut lui prodiguer les institutions, les moyens qui lui permettront cette vie spirituelle. Le pape Pie XII, d'immortelle mémoire, dont nous avons fait l'éloge l'année dernière, disait que de la forme donnée ou non à une société dépend le salut ou la perte d'un plus grand nombre. Alors cette Église, au cours de son histoire, a réalisé. On parle beaucoup de repentance de nos jours, on en l'a dit tout à l'heure un petit peu, mais on oublie ce que l'Église a réalisé de bien dans son passé. Où sont les documents qui, aujourd'hui, magnifient ce passé de l'Église? Alors, oui, chrétiens, relevons la tête et affirmons cette sainteté de l'Église. Affirmons que l'Église a été mère, sainte, et c'est le miracle de l'Église, encore une fois, par sa mission civilisatrice universelle. N'en déplaise au sens actuel de l'histoire. L'Église est mère des saints qui ont fait la France, qui ont fait le monde. Mère des saints dont la mémoire est parvenue jusqu'à nous. Seule la mémoire des saints demeurera pour l'éternité. L'Église est mère des moines, des fricheurs, agriculteurs, bâtisseurs et éducateurs. L'Église est mère des évêques dont le titre était « défenseur de la cité ». L'Église, mère de la libération des esclaves, institutrice des peuples barbares. L'Église, mère des plus nobles souverains que le monde n'ait jamais connus, les Saint-Louis. Saint-Louis de France, Saint-Henri d'Allemagne, Saint-Édouard d'Angleterre. L'Église, mère des cités-refuges du Moyen-Âge. L'Église, mère des hôpitaux, des orphelinats. L'Église, mère du respect de la femme, de la famille. L'Église, mère de l'esprit chevaleresque. L'Église, éducatrice du soldat, qui ne pouvait combattre que pour une cause juste, une cause sainte. L'Église, mère des écoles, partout et pour tous. Regardez le nombre d'écoles qui ont été fondées par l'Église. L'Église, mère des universités, des docteurs, des grands philosophes, de ceux qui ont fait finalement la science. Regardez au Moyen-Âge, où étaient-ils les penseurs autres que ceux de l'Église? L'Église, mère de la réalité objective, toujours défendue. L'Église, mère des premiers catholiques sociaux, défenseur du petit. L'Église, mère des encycliques sociales. Il n'a pas fallu attendre les Marx et les Lénine pour parler du petit, de celui qui était pauvre. Non, l'Église a parlé, et a parlé la première, en donnant les véritables orientations, les véritables principes à défendre. Et s'il y a eu besoin de recourir à cela, c'est parce que la Révolution française avait tout cassé. L'Église, protectrice des sources de la vie contre l'avortement, la stérilisation, le clonage, l'euthanasie et que sais-je encore. L'Église, mère protectrice des arts, de la civilisation, mère des cathédrales, mère des basiliques. Cette liste n'est pas exhaustive, il y en a encore beaucoup et encore de nombreuses réalisations que l'Église au cours des âges a pu faire. Et pour reprendre l'expression de Bernanos, pour une escorte de béquillards, d'aveugles, de mendiants, de simulateurs, je ne crois que ce n'est pas trop mal, pas si mal que cela. Alors, n'ayons pas peur, ne craignons rien. Tout ce qui dure de nos jours, on peut l'affirmer sans être démenti, a été fondé par l'Église. Et même si ça a été repris ensuite par d'autres, stat cruce, dum revolvitur orbis, seule la croix demeure pendant que la terre tourne. Alors la méditation de l'histoire de l'Église, de son mystère, s'apparente à la méditation sur le Christ. Au mystère joyeux succèdent des mystères douloureux de l'histoire de l'Église, mais l'espérance toujours nous guidera, espérance théologale, fondée sur cette méditation. Et dans les périodes de découragement où nous voyons actuellement peut-être tout s'effondrer, n'ayons pas peur et regardons ce crucifix, cette croix qui demeure toujours plantée sur cette terre. Dans cette crise qui dure, et c'est l'expression d'un prêtre de paroisse qui, voyant la crise, se décourage et qui se dit, mais quand est-ce que cela finira? Monsieur l'abbé de la Roque, ce soir, nous parlera de ce clergé de France. Il le connaît, il a des relations avec lui. Alors, ne nous décourageons pas, et sachons toujours, eh bien, comme un disciple, voir, eh bien, que... Oui, comme un disciple, voir que nous ne sommes pas au-dessus du Maître et que nous devons toujours, eh bien, regarder la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que si l'Église connaît des difficultés sans nombre aujourd'hui, la main de la Providence la gouverne et dispose tout avec force, avec douceur, et notre Seigneur sera triomphé en son temps. Voici que je suis avec vous pour l'éternité. Après les mystères joyeux, les mystères douloureux, il y aura les mystères glorieux.
Alors, nous allons donner la parole sans tarder à Dominique Vien, agrégé de lettres, professeur de lettres dans les environs de Paris, qui s'occupe depuis quelques années donc, de l'association des professeurs de lettres de la tradition. Et il va nous parler donc de la Bible et la science. Vous savez, pour beaucoup d'entre vous, que depuis plus d'un siècle, l'archéologie, l'histoire a fait d'énormes progrès, des découvertes ont été faites et ont permis d'avancer sur cette connaissance de l'histoire biblique, de l'histoire du peuple hébreu, et dont a permis de faire donc justice d'un certain nombre de légendes sur le fait que la Bible pourrait être un livre de mythes, de choses inventées. En fait, non, c'est, comme on le verra, tout le contraire. Alors, ne connaissant pas l'intervention de mon collègue, éminent collègue Dominique Vien, je n'en dirai pas plus, risquant de dire peut-être des bêtises. Donc, je lui laisse la parole tout de suite.
Je remercie donc Mademoiselle Brugère de son exposé très dense, hein, effectivement, qui soulève également beaucoup de questions et beaucoup de compléments à apporter. C'est bien évident, mais comme je crois toutes les conférences que nous avons pu écouter aujourd'hui, que nous écouterons toujours, hein, car si après une conférence vous savez tout, c'est qu'on n'a encore rien dit. Merci maintenant à tous nos conférenciers, hein, depuis ce matin jusqu'à ce soir. Et je voudrais finir par une distinction également. Une distinction justement sur ce que nous avons dit, mais une distinction pour unir. Certes, il faut distinguer, je crois que nous manquons souvent de distinction par nos caractères, nos pensées trop univoques souvent. Mais nous devons unir, et comment unir? Eh bien, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui nous le dit par l'amour. Souvenez-vous de cette parole très forte de Sainte Thérèse, je la cite de mémoire, je me tromperai certainement sur sa substance, enfin sur les mots qu'elle employait. Si l'amour venait à manquer, alors les martyrs refuseraient de donner leur sang. Eh bien, c'est cet amour de l'Église qui doit nous guider. Ce n'est pas une conquête personnelle. L'année dernière, quelqu'un de Lyon m'avait dit, il n'est pas à notre chapelle, mais il m'a dit, mais vous voulez avoir des parts de marché. Il ne s'agit pas de parts de marché. Il s'agit, eh bien, de cet amour de l'Église qui doit, eh bien, nous guider dans le combat que nous menons. Et cet amour, il sera entretenu. Il ne faut pas que notre colloque soit simplement un colloque dans lequel, eh bien, nous sommes fait plaisir, c'est-à-dire nous avons entendu des choses. Mais il faut maintenant, eh bien, que nous puissions mettre cela en pratique. Et je finirai tout simplement par vous inviter toujours, comme on l'a répété tout à l'heure, comme Mademoiselle Brugère l'a répété, et d'autres d'ailleurs, ici, et M. l'abbé Laurence, dans notre dernière conférence de l'Institut, il faut se former. Il faut se former pour avoir des idées claires. Car si on n'a pas des idées claires, alors tout sera confus, et notre conduite aussi nous sera confuse. Et puis, il faut savoir servir l'Église. Et j'utiliserai un texte du cardinal Ottaviani qui a été publié dans l'Église et la Cité, un petit peu un condensé sur ces problèmes de l'Église et la Cité. Et d'ailleurs, tout à l'heure, ces rapports de l'Église et la Cité sont toujours délicats, nous le savons. Et le titre de cet article, « Servir l'Église et non s'en servir ». Je résumerai pour ne pas être trop long. L'Église est notre mère, nous l'avons dit ce matin. Et quand nous avons dit que nous devons l'aimer, nous avons tout dit. Et si nous l'aimons, nous avons tout fait. Mais avons-nous tout fait? Et là, le cardinal Ottaviani, eh bien, jette un regard autour de lui. Dans ce monde où, même dans les pays catholiques, c'était il y a quelques années, il y avait encore des pays catholiques, où il y avait tant de péchés qui se commettent. Et là, de dire, le cardinal, ce n'est pas la manière d'honorer l'Église, cela plutôt la déshonore, ce n'est pas servir l'Église, c'est s'en servir. Et deuxièmement, comment servir l'Église? En défendant l'Église. Défendant l'Église contre ceux qui la persécutent mais aussi contre ceux qui veulent la compromettre et la souiller. Se servir l'Église, ce signifie se donner généreusement pour des fins spirituelles éternelles, leur sacrifier pour son amour, nos aises, nos loisirs, nos honneurs, notre vie. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous faisons assez? Chacun à notre place, il ne s'agit pas de remplacer les évêques, de remplacer le pape, de remplacer les prêtres, non. Il s'agit d'être là, au service de Dieu, au service de l'Église, là où nous sommes. À la presse adverse, disait-il, comment nous opposons-nous? Comment aidons-nous la nôtre? Aux actions de l'ennemi, par quels actes pouvons-nous répondre? Certes, beaucoup a été fait et beaucoup est en train de se faire. Il n'est pas vrai que nous soyons, comme il y a une dizaine d'années, les derniers des hommes. On nous avait chassés de toutes parts, nous sommes réapparus de toutes parts. Et nous pourrions redire avec Tertullien, nous ne sommes que d'hier et déjà nous avons rempli tous les coins de votre vie, vos temples exceptés, etc. Et puis, troisième manière de servir l'Église, et l'honneur de l'Église exige cela, c'est de faire encore plus que cela. Et pour faire encore plus que cela, eh bien c'est de considérer l'Église comme elle est. L'Église est ce qu'il y a de plus saint, de plus grand, de plus beau, comme il convient à l'épouse de celui qui est l'éclat de la lumière éternelle, fils unique du Père et premier-né des hommes. Tant que les hommes ne sauront pas cela, mieux ne le sentiront pas, nous ne pourrons rester oisifs. C'est cela, servir l'Église et rien d'autre. Aimer notre mère, défendre l'honneur de l'épouse du Christ dans le monde, comment la servons-nous? Comment la servirons-nous? Je vous remercie et je vous dis à l'année prochaine.